suivi à certains moments dans la guerre d'Irak. Vous rencontriez parfois des gens qui formulaient cette exécration. Non, les Américains ne viendront pas chez nous. On les vaincra. On n'en fera qu'une bouchée. C'est exactement... On se justifie en quelque sorte, on justifie la guerre que l'on va faire en s'excitant et en disant ben, on va vous fracasser l'ennemi comme on fracasse cette petite statuette. Ça, c'est ce qu'on appelle la cérémonie d'exécration. Et c'était donc une coutume de l'armée égyptienne.
On s'est brûlé le drapeau de l'ennemi.
Donc, oui, exactement. Je visiterai les gens installés au pays d'Égypte comme j'ai visité Jérusalem. Par les pays de la famine et de la peste, vous commencez à comprendre. Dans ce reste de Judas venu séjourner au pays d'Égypte, plus un seul survivant n'échappera pour retourner au pays de Judas, où ils désirent ardemment revenir et demeurer, car ils n'y reviendront pas, sauf quelques rescapés. Ce que Jérémie avait promis, c'est que tous ceux qui étaient envoyés en exil reviendraient. Et pour ceux qui sont allés, non pas en exil, mais chez ce qu'ils appelaient leurs protecteurs, c'est-à-dire les Égyptiens, eux ne reviendront pas. Donc il faut faire le bon choix. Mais à ce moment-là, on ne sait pas quel est le bon choix, évidemment. C'est là ou c'est là. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes encensaient des dieux étrangers, et toutes les femmes présentes, une grande assemblée, et tout le peuple établi au pays d'Égypte et à Patros, firent cette réponse au Seigneur.
À Jérémie.
En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom du Seigneur, nous ne voulons pas t'écouter. Mais nous continuerons à faire tout ce que nous avons promis, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations, comme nous le faisions, nous et nos pères, nos rois et nos grands, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyons point de malheur. On va recommencer. Avec ton affaire de faux dieu, etc. Ça ne nous atteint pas. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons péri par l'épée et la famine. Nous, c'est ce qu'on voit. Hein. Et les femmes d'ajouter, d'ailleurs, quand nous offrons de l'encens à la reine du ciel et lui versons des libations, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et lui versons des libations? Même que nous faisons des gâteaux qui représentent Saint-Nicolas, eux, ils faisaient des gâteaux représentant représentant la reine du ciel. Mais Jérémie déclara à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous les gens qui lui avaient fait cette réponse, « Cet encens que vous avez offert dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos grands, ainsi que le peuple du pays, n'est-ce pas cela dont le Seigneur s'est souvenu et qui lui est remonté au cœur? Le Seigneur n'a pu se contenir davantage devant la perversité de vos actes, devant les choses abominables que vous avez faites. Ainsi votre pays est devenu un désert, une épouvante, une malédiction, sans habitants, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est que vous avez offert de l'encens et péché contre le Seigneur, n'écoutant pas la voix du Seigneur et ne marchant pas selon sa loi, ses prescriptions et ses ordonnances. Voilà pourquoi ce malheur vous a atteint, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est tout à fait du style deutéronomiste, comme c'est le cas aujourd'hui. Le Deutéronome, c'est le livre de l'aujourd'hui. Puis Jérémie s'adressa à tout le peuple, notamment à toutes les femmes. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël, vous les femmes. Ce que votre bouche promet, il faut que vos mains l'exécutent. Vous avez dit, nous accomplirons exactement les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations. Soit, accomplissez vos vœux, faites bien vos libations. Toutefois, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens, installés au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, déclare le Seigneur, dans tout le pays d'Égypte, mon nom ne sera plus prononcé par la bouche d'aucun homme de Juda. Aucun ne dira par la vie du Seigneur Yahvé, hein, c'est-à-dire la formule habituelle du serment. Voici, je vais veiller sur eux pour leur malheur, non pour leur bien. Tous les hommes de Juda qui se trouvent au pays d'Égypte périront par l'épée et la famine, jusqu'à extinction totale. Cependant, des rescapés de l'épée en petit nombre reviendront du pays d'Égypte au pays de Juda. Alors, tout le reste de Juda venu au pays d'Égypte pour y séjourner reconnaîtra quelle parole portait, la mienne ou la leur. C'est quand le prophète est mort qu'on découvre s'il avait dit vrai ou pas vrai. Et voici pour vous, oracle du Seigneur, la preuve que je vous visiterai en ce lieu. Alors vous reconnaîtrez que mes paroles de menace contre vous se réaliseront. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais livrer le pharaon Hofra, roi d'Égypte, aux mains de ses ennemis. Effectivement, Hofra va être vaincu par les Babyloniens et de ceux qui en veulent à sa vie, de la même façon que j'ai livré Sédécias, roi de Juda, aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Et il y a un petit mot pour Baruch. Donc vous voyez, Jérémie est envoyé en Égypte. Il prophétise encore en Égypte. Il reste fidèle à sa prophétie du début. Et un petit mot de consolation pour son secrétaire. Mais après cela, on perd absolument la trace de Jérémie. On ne sait pas. On suppose qu'il est mort en Égypte, mais on ne sait pas comment. Parole, chapitre 45, donc c'est la fin de la deuxième grande partie du livre de Jérémie. Parole qu'adressa le prophète Jérémie à Baruch, fils de Néria, quand celui-ci écrivit ses paroles dans un livre sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Hakim, hein, nous avons déjà vu ça, fils de Josias, roi de Juda. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Puisque tu as dit, malheur à moi, car le Seigneur accumule pour moi peine sur épreuve. Il n'a pas la trempe de Jérémie quand même. Hein. Jérémie est quand même un tout petit peu plus coriace. Je suis épuisé à force de gémir et ne trouve aucun répit. Ainsi parle le Seigneur, ce que j'avais bâti, je le démolis. Ce que j'avais planté, je l'arrache, je vais frapper toute la terre. C'est une manière de dire, je laisse les hommes à leur jeu. Puisqu'ils préfèrent la spirale de la violence, je ne peux plus rien faire. Je dois les laisser à cette spirale de la violence. Non pas que Dieu se désintéresse des hommes, pas du tout cela, mais c'est parce qu'il y a un blocage, on ne veut pas écouter. Autrement dit, on joue le jeu de la violence, de la guerre, et ce jeu ne mène à rien. Et c'est ça, finalement, la leçon de tous les livres des rois. Quand vous lisez les livres des rois, hein, depuis l'histoire de Samuel, premier livre des rois, jusqu'à la fin, c'est-à-dire cette histoire que nous relisons ici. Quand vous lisez les livres des rois, vous devez tirer la conclusion, au fond, les guerres ne mènent à rien. Tant que les royautés sont basées sur la puissance, sur la domination, tant qu'ils jouent le jeu de la violence, ils n'arriveront à aucun résultat. On en arrive à l'exil. Tout ce qu'on avait pu recevoir à l'époque de David et de Salomon a été détruit petit à petit. Parce qu'on a joué le jeu de la violence. Parce qu'on a préféré à la présence de Dieu toutes sortes d'idéologies. L'idéologie de la violence, hein, c'est-à-dire le dieu Mars, ou le dieu Hadad, hein, avec sa lance sous forme d'éclair. C'est le dieu guerrier.
Sharon ne relit pas sa Bible, alors.
Je ne sais pas juger. Mais le problème est là. Le problème est là. Si vous cherchez la violence ou la duplicité, que vous soyez Sharon ou Arafat ou un autre, ça ne mènera à rien. Ça ne mène qu'à des, hein, comme il le dit 50 fois, ça ne mène qu'à des ruines, à des massacres de population, à de la haine accumulée. Ça n'avancera pas la paix. Alors, quel parti prendre ? Celui de Jérémie, dans la perception moderne, Jérémie, c'est quelqu'un comme le père Choufani. Il dit, le jeu que vous jouez ne sert qu'à vous monter la tête les uns aux autres, d'avoir peur et de vous détruire. Mais ce qui est vrai pour les peuples, est vrai pour nous, est vrai pour nos communautés. Dans nos communautés, quelles qu'elles soient, on passe tellement de temps à déblatérer les uns sur les autres, à se faire, excusez le mot, enrager, à se mettre des obstacles. Et on ne fait que détruire. Je dis « on », parce que c'est vraiment généralisé. Mais il faut passer du « on » au « je ». Qu'est-ce que je fais pour mettre la réconciliation et la paix là où il y a la guerre ? Ça, c'est la leçon du livre de Jérémie. Mais vous voyez que Jérémie a commencé par souffrir de tout cela. Il a commencé par découvrir que cette situation où l'on se fait mal gratuitement les uns aux autres est finalement intenable. Il a essayé de parler, on n'a pas entendu. Et donc qu'est-ce qu'il lui reste ? À vivre sa propre parole. À vivre ce qu'il a dit, c'est-à-dire, comme le dit André Néer, à passer à travers minuit. C'est-à-dire à subir l'épreuve avec son peuple. Et c'est exactement ce qui lui est demandé. Hein. Alors, vous commencez à comprendre, hein, quand on relit la passion de Jésus, qu'est-ce que Jésus a essayé de faire à travers toute sa vie ? Il a essayé de réconcilier les hommes les uns avec les autres, et en leur disant, si vous voulez vous réconcilier entre vous, réconciliez-vous d'abord avec le Seigneur, avec sa présence parmi vous. Et donc, Jésus aussi, comme les prophètes, a dénoncé un certain nombre d'injustices. Il a dénoncé beaucoup de malversations. Il a montré que les intentions étaient souvent doubles. Donc il a dénoncé l'hypocrisie, comme il dit, le langage double. Et parce qu'il a vécu ce qu'il avait dit, ben, lui aussi, est devenu la proie d'abord de ses disciples, car si vous voyez bien dans les évangiles, la passion de Jésus commence au moment de l'Eucharistie. L'un de vous me trahira. La bouchée à Judas pour Saint Jean. Donc c'est d'abord les siens, d'abord ses proches. Chez Jérémie, c'était d'abord les gens d'Anatote. Et donc, ce sont d'abord ses proches qui ne découvrent pas, pardon, en lui, l'idéal qu'ils se figuraient de celui qu'ils attendaient, c'est-à-dire le Messie. C'est pas comme ça qu'on le voyait. On le voyait comme quelqu'un qui mettrait de l'ordre, et il n'y a pas d'ordre. Parce qu'il interpelle les gens de l'intérieur. C'est ça, sa prophétie. La prophétie, c'est cela, c'est mettre les gens, par la parole, face à la présence de Dieu. Et Jésus a vécu comme cela toute sa vie comme prophète. Il ne condamne jamais les individus. Vous l'aurez remarqué, il ne condamne pas. Va et ne pêche plus. Il condamne des manières de faire, dans ce que nous appelons des catégories, scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens, ce sont les gens bien pensants, les pharisiens, les gens charitables, c'est ça. Et les scribes, c'était les théologiens de l'époque, scribes et pharisiens hypocrites. Ça veut dire qu'ils demandent à ces scribes et à ces pharisiens de se remettre dans la vérité et de ne pas faire passer leur parole au lieu de la sienne. Et cela fait, alors que ses apôtres, ses disciples croyaient en lui, c'est eux qui les premiers se retournent contre lui. Au moment de la communion, de l'institution eucharistique, au moment où Jésus se met à leurs pieds pour leur laver les pieds, il a devant lui un traître, un renégat et 10 poltrons. Communauté apostolique. Les notes ne sont peut-être pas mieux, hein, ben je n'en sais rien. Mais enfin, ça nous fait réfléchir. Et les récits de la Passion sont constitués comme cela. Hein. Quand Jésus dit « l'un de vous me trahira », ben, il demande tous « est-ce moi ? Est-ce moi ? Est-ce moi ?» Ça, c'est la première phase de la Passion. Et la seconde phase de la Passion, c'est son peuple. Ici aussi, vous avez le peuple qui est présent. Le peuple qui ne veut pas entendre, parce que le peuple a peur de la souffrance. Et donc celui-là qui nous dit la paix, que la paix est possible, il nous demande trop. Et vous voyez, il est jugé comme blasphémateur. Un peu comme Jérémie. Il faut le voir, la passion de Jérémie en filigrane, comme type. Et puis vous avez les païens, symbolisés par Pilate, par le gouverneur. Les païens. Et nous allons voir aussi les païens, ceux qui veulent maintenir leur pouvoir, que ce soit le roi de Babylone ou le pharaon d'Égypte, ça revient au même. C'est ceux qui veulent maintenir leur pouvoir. Ce que j'avais bâti, je le démolis. Ce que j'avais planté, je l'arrache. Je vais frapper toute la terre. Il faut bien que j'acquiesce à ce que les hommes me donnent. Et toi ? Tu réclames pour toi des choses extraordinaires ? Ne réclame pas, par voici que j'amène le malheur sur toute chair, oracle du Seigneur, et toi, je t'accorde pour butin ta propre vie partout où tu iras. Tu es responsable de toi-même. Au milieu de tout cela, au milieu de cette déflagration humaine, tu es responsable de ta vie, de te mener parmi toutes ces vicissitudes dans lesquelles nous sommes. Et vous touchez ici quelque chose de très important chez Jérémie. Ce que Dieu veut, c'est notre liberté intérieure. Et notre liberté intérieure, nous ne la trouvons que dans une intimité, à cœur avec le Seigneur. Dit dans les termes de Jérémie, c'est le GSM qui fonctionne constamment, hein, entre Dieu et Jérémie. Parole du Seigneur, hein, oracle du Seigneur, etc. C'est ça. C'est ce contact. C'est ça qu'il veut nous dire. Hein, il nous répète ça à satiété. Hein. Quand on a lu 10 pages, hein, on a un peu lu tout. Et on retrouve toujours. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette répétition ? que ce que Dieu veut véritablement à travers tout le jeu de la domination des hommes, que les hommes recherchent, à travers un jeu qui est sérieux, dans la mesure où il met en jeu la vie des hommes, c'est quand même sérieux. Mais ce jeu, il tourne à faux. Parce que les valeurs que nous mettons en évidence sont toujours des valeurs caduques. Elles n'ont pas la finalité absolue. Seul celui qui est le créateur et le maître de l'histoire peut avoir une finalité absolue sur le monde. Et donc, si nous restons à l'intime de cette relation avec lui, nous deviendrons des hommes libres. Des femmes libres. Pas évident, hein? Mais c'est notre vie qu'il raconte. Sinon, à quoi bon nous raconter toute cette histoire? Pour aller plus vite, en besoin, pour faire un petit résumé. Et le petit résumé, vous le trouvez, d'ailleurs, en grand résumé. Vous le trouvez à la fin du livre, du deuxième livre des rois. On a pris les passages du livre des rois et on les a simplement développés, c'est tout. Pour mettre à la fin du livre de Jérémie. Mais il y a encore une partie. Et ce sont ces oracles contre les nations. Je vous l'avais annoncé, ce qui vaut pour Jérémie vaut pour le peuple. Et maintenant, ce qui vaut pour le peuple, vaut pour les nations. C'est le sort de chacun. Donc, Jérémie parle pour tout un chacun. Nécao a voulu s'emparer d'Israël. Ça a été pour un temps, et puis... Il a été battu à Carchemish, 605, par le général en chef qui était Nabucodonosor à l'époque. Nabucodonosor a voulu prendre tout le pays, mais Israël, c'est évidemment, il est important parce que c'est le petit pays d'Israël. Eh bien, Nabucodonosor, malgré toute sa grandeur, sera vaincu. Et Babylone sera détruite. Et celui qui va détruire Babylone, c'est Cyrus. Et il va la détruire sans coup férir. Un petit peu comme Mossoul aujourd'hui. Hein, Mossoul a été prise presque sans résistance. Comme ça que Babylone va être détruite aussi. Apprenez un peu de l'histoire. Et alors, nous allons voir comment maintenant le sort d'Israël, mutatis mutandis, puisque les personnes sont différentes, mais va prendre la même physionomie, la même forme. Ce qui vaut pour Israël vaut pour tout un chacun. Et je voudrais justement vous lire, pour terminer maintenant, un petit passage qui vient pour vous montrer que l'histoire se répète, qui vient du prophète Nahum. Voilà. Le prophète Nahum ne parle que d'une chose, c'est de Ninive. C'est à la page 1250 de mon édition, donc c'est la même que la tienne. Le prophète Nahum, qui se trouve après le prophète Michée.
On ne savait même pas qu'il existe.
Nahum, la consolation. Nahum, le consolé. Nahum. Il y a ce petit prophète Nahum. Il ne parle que d'une chose, c'est de la prise de Ninive. C'est tout. Tout tourne autour. Ninive, c'était la capitale assyrienne, hein, qui a été prise justement par le général, hein, Nabucodonosor. Sous les ordres de Nabopolassar. Alors, Je vous donne, je ne prends qu'un petit passage au chapitre 2. Un tout petit passage pour vous montrer comment ce sont les mêmes schémas qui reviennent. Contre toi s'avance un destructeur, monte la garde au rempart, surveille la route, serre-toi les reins, rassemble toutes tes forces. Les boucliers de ces preux rougeois, ces braves sont vêtus d'écarlate, les chars flamboient de tous leurs aciers à l'heure de leur mise en bataille. Les cavaliers s'agitent, dans les rues font rage les chars, ils foncent à travers les places, à les voir on dirait des flammes, comme la foudre ils courent ça et là. On appelle les troupes d'élite, les colonnes s'entrechoquent. Elles se lancent contre le rempart. Déjà l'abri est en place. Les portes qui donnent sur le fleuve s'ouvrent. C'est la panique dans le palais. On enlève, on emmène en exil la dame, c'est-à-dire la déesse. Ses servantes poussent des gémissements. Comme la plainte des colombes, elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un bassin dont les eaux s'échappent. Arrêtez, vous arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Hein, tous les pillages, hein. Ce ne sont que trésors sans fin, des masses d'objets précieux, pillages, saccages, ravages. Le cœur manque, les genoux fléchissent, l'épouvante est dans tous les reins, tous les visages perdent leur couleur. Là, comment un prophète décrit, si je le prends, c'est parce que vous allez voir que ce schéma, vous le retrouvez chez Jérémie. Hein, Nahum est un peu avant Jérémie. Que c'est au moment de la chute de Ninive. Et puis je vous prends un passage du journal La Croix du 26 mars de cette année. Sur 4 kilomètres d'une course haletante, les Marines viennent de franchir l'Euphrate. Sous les tirs nourris de combattants irakiens embusqués dans la première grande bataille urbaine de la guerre en Irak. Environ 4000 hommes du premier corps expéditionnaire des Marines ont ainsi franchi en quelques heures les deux ponts sur l'Euphrate situés au cœur de cette ville de 265 000 habitants. Nasriya, hein, un peu au sud de Bagdad. Je continue. Affolés, les civils fuient en courant, femmes et enfants, majorité. Des hélicoptères de combat Apache passent en rugissant à basse altitude, tandis que les détonations d'armes de tout calibre, de chars et de mortiers emplissent l'air. Le long de la route à quatre voies empruntée par les Américains, il n'y a pas un bâtiment qui ne porte la trace des combats, impact de balles, vitres brisées. Depuis trois jours, les Marines piétinaient devant la ville, leur progression bloquée à 350 km au sud-est de Bagdad. Finalement, en dépit des dangers de cette guerre urbaine que l'état-major anglo-américain voulait à tout prix éviter, le premier corps des Marines s'est lancé dans la traversée de Nasiriyah que certaines unités contournaient dans le même temps. Dès l'entrée de la ville, six chars irakiens touchés dans la nuit par des missiles Hellfire, dans leur position enterrée, se consument non loin des carcasses de deux camions et d'un Humvee américain touché à proximité d'une raffinerie de pétrole en flammes. Pour tenter de sécuriser le passage, les Marines se vont de maison en maison pour des opérations de fouilles. Sur la route gît le corps écrasé d'un homme dont on ne peut déterminer si c'était un civil ou un combattant. Ce terrain urbain est le plus dur. Les Irakiens ne portent pas d'uniforme, alors on ne sait pas qui est l'ennemi. C'est quand même extraordinaire de retrouver, hein, à 2500 ans de distance, de retrouver à peu près au même endroit, à quelques 500 km de distance, de retrouver les mêmes réalités profondes.
Faudrait donner cours à l'école militaire.
Vous riez ? Mais
de défoulement.
À l'école militaire israélienne, on reprend tous ces passages et on essaie de voir qu'est-ce que ça peut signifier. Mais quand nous voyons ça, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Exactement, c'est pour ça que je prends ce passage juste ici. Nous pouvons dire, mais ce qui vaut pour une nation à un moment déterminé, vaut pour toutes les nations à d'autres moments, parce que c'est la réalité de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous avons un tel respect pour la réalité de l'homme, image de Dieu? Difficile, hein? C'est ça qu'on veut dire quand on commence la Bible par la création. Et si vous mettez l'histoire des hommes et cette même histoire sous le regard de Dieu, vous avez un prophète. Un prophète, c'est cela. Et la vie de prophète n'est pas une sinécure, comme vous l'avez pu le remarquer. Est-ce que on a apporté... Pardon ? Oui. Je vais plutôt m'arrêter ici avant de...
Elle a apporté des munitions.
D'embrayer, oui. Résumé du pèlerinage justement du père Émile Choufani, avec plus de 500 juifs et arabes venus d'Israël, de Belgique et de France, donc qui ont fait ce pèlerinage. Et ici, c'est un compte-rendu que les sœurs de Sion ont mis dans leur revue qui s'appelle Shalom. Et donc, il me semble que ça reprend un email reçu le 4 juin 2003, et par Yohanan Elichai, donc c'est le petit frère Yohanan, petit frère de Jésus, qui a repris cela. Je ne sais pas s'il a participé ou non, je n'ai pas vu qu'il le disait explicitement, mais c'est possible. Il dit que ça a été extrêmement émouvant de voir là, à Auschwitz, ce pèlerinage, où il n'y avait pas de célébration religieuse, hein, rien du tout, excepté des lectures. Et des lectures de noms, surtout. Il dit que c'était terriblement émouvant d'entendre là-bas parler arabe, hébreu, hein, et un certain nombre d'autres langues, polonais naturellement, et beaucoup d'autres langues également.
L'RTB en a parlé à la radio.
Oui.
Ce matin, un jour.
Il y a des jeunes aussi qui ont donné.
Je n'ai pas encore lu, j'ai simplement parcouru, mais je crois que c'est... Ça, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Qui ne sert à rien d'autre qu'à cela. C'est-à-dire à dire et à dire pour le monde qu'on désire véritablement vivre dans la paix. Et la faire, la réaliser. Et alors nous abordons la dernière partie. Nous commencerons ce soir, nous prendrons la fin demain matin. Et puis nous essayerons aussi de nous demander ce que un prophète comme celui-là, à quoi cela nous engage, nous, aujourd'hui. D'abord, dans ces oracles contre les nations, on parle d'un fait important. C'est Carchemish. Carchemish, c'est un nom important dans l'histoire, 605 avant Jésus-Christ. Donc 4 années après la mort de Josias, donc où Nécao se portait vers Babylone et avait été arrêté par Josias. Et il n'était pas parvenu jusqu'à Babylone. Mais alors il recommence 4 années plus tard, en 605 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, il y a eu une grande bataille. Carchemish se trouve tout à fait au nord, entre la Syrie et la Turquie actuelle, vraiment à la limite. Nous sommes allés une fois en 1960 là-bas, donc c'est vraiment à la limite. Il a fait un jour mémorable parce que personne ne nous laissait entrer d'un côté ou de l'autre. Nous avions de Damas le permis, c'était en 1960, hein, le permis d'aller jusqu'à Karkemish, jusqu'au site de Karkemish, mais le petit commandant, hein, au moment de la frontière, ne voulait pas nous laisser passer. Si bien qu'on a dû parlementer, téléphoner à Damas, et il dit, mais ça dépend de moi, ça ne dépend pas de Damas. Damas vous a donné la permission, mais c'est moi qui suis ici. Et on voyait qu'il voulait faire acte d'autorité. Et puisqu'il était là, et que ça dépendait de lui, que l'on passe ou que l'on ne passe pas. Beau avoir toutes les permissions possibles et imaginables, ça ne servait à rien. Il a fallu donc qu'on téléphone et que, qui veuille bien d'abord qu'on téléphone, il a fallu parlementer une bonne heure pour cela, pour qu'ils prennent le téléphone. Et puis alors, à ce moment-là, on a téléphoné à Damas, et puis Damas, lui, a téléphoné pour lui dire que... Et ils ont parlementé pendant encore un quart d'heure, 20 minutes. Mais comme il y avait des Français dans le groupe, c'était très difficile. Parce que la Syrie avait été sous mandat français, hein, et ça faisait des problèmes. Ah, enfin, patience. Paroles du Seigneur qui furent adressées au prophète Jérémie concernant les nations. Alors, dans ces prophéties contre ou sur, disons plutôt sur les nations, ces prophéties ne sont jamais envoyées aux nations, évidemment. Ces prophéties sont faites pour Israël et pour dire à Israël quel est son rôle à jouer parmi les nations. Tout le monde lui tape dessus. Hein? Toutes les nations, tous les voisins et surtout les grands lui tapent dessus. Pourquoi ? Ben parce que ce n'est qu'un petit pays sans importance et tout le monde veut avoir ce territoire. Mais Israël a un Dieu et ce Dieu, il dit qu'il est unique. Donc on lui tape dessus pour avoir son territoire, mais perçu du côté d'Israël, on lui tape dessus parce qu'il a le Seigneur, l'unique, comme Dieu. Tandis que les autres ont toutes sortes de dieux, ont tout un panthéon. Et donc on lui en veut d'être le chouchou de Dieu, en quelque sorte. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Cela vaut aussi pour nous. Que notre Dieu est le Dieu unique. Et lui rendre grâce sans nous en glorifier. Nous disons avoir la vérité, on n'a pas la vérité. On est eu par la vérité. C'est la vérité qui nous a. Avoir la vérité et devoir se le faire pardonner. Avoir un contact réel avec Dieu, ne pas être compris et devoir en quelque sorte se le faire pardonner, c'est-à-dire essayer de vivre sa destinée dans la paix. Ce n'est pas évident pour Israël, ce n'est pas évident pour nous-mêmes non plus. Et cela donne à Israël la possibilité de rendre grâce et donc aussi de douter. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, hein, la liberté intérieure qui est une réalité très fragile. On commence par quoi ? Par l'Égypte, figurez-vous. Vous voyez pourquoi ? On a terminé sur l'Égypte, on est parti en Égypte, on va commencer par faire un oracle sur l'Égypte. Donc, oracle sur l'Égypte, on reparle de Karkemish, là où l'Égypte a été vaincue. Et puis, on vous dit, eh bien, il y aura encore une défaite de l'Égypte contre Babylone, parce que, comme on y a déjà fait allusion, le roi de Babylone va venir jusqu'en Égypte et va prendre les grandes villes du delta, sur l'Égypte. Contre l'armée du pharaon Nekao, roi d'Égypte, qui était en position près du fleuve Euphrate, vers Carchémish, quand Nabucodonosor, roi de Babylone, le battit. Donc Nabucodonosor était monté le long de l'Euphrate, tandis que l'autre était monté à travers Israël, jusque, traversant la Syrie.
Et les avait laissés passer, les Israéliens?
Oui, finalement oui. À ce moment-là, ils étaient dépendants de Nekao, puisque depuis 609. Quand Nabucodonosor, roi de Babylone, le bâtit, c'était la quatrième année de Joachim, fils de Josias et roi de Juda. Quatrième année, donc 4 ans après la mort de Josias à Megiddo. Alors, nous avons le langage, c'est pour ça que je vous ai cité Nahum, vous avez le langage de la guerre, en quelque sorte. Préparez targes et boucliers, en avant pour la bataille. Harnachez les chevaux, enselle cavaliers, alignez-vous, casque en tête, affûtez les lances, endossez vos cuirasses. Ce sont les ordres, hein, les ordres qui sont donnés par l'armée. Que vois-je? Les voilà pris de panique, ils lâchent pied, leurs braves battus s'enfuient éperdument, sans se retourner. C'est la terreur de tous côtés, oracle du Seigneur. Donc, un langage de commandement, de guerre, et en même temps, la fuite. Ça, c'est Carchémish. On vous dit, préparez-vous, faites tout ce qu'il faut pour, puis on les voit se sauver. Les plus rapides ne peuvent échapper, ni les plus valeureux s'en tirer. Vers le nord, aux rives de l'Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés. Qui donc montait, pareil au Nil, hein, le fleuve imposant, qui donc montait pareil au Nil, et comme des torrents bouillonnaient ses eaux? C'est l'Égypte qui montait pareil au Nil, comme des torrents bouillonnaient ses eaux. Elle disait, je monterai submerger la terre, détruire les villes et leurs habitants. Chevaux, chargés, chars, foncez, avancez, guerriers, gens de couche et de poutre, qui étaient les mercenaires des Égyptiens, porteurs de boucliers, ludiens, qui bandaient l'arc. Or, ce jour-là est au Seigneur jour de vengeance pour se venger de ses ennemis. Son épée va dévorer tout son sou, elle s'enivrera de leur sang. Oui, le Seigneur Yahvé Sabaoth fait une hécatombe dans le nord vers le fleuve Euphrate. Et on met toujours le compte de Dieu. Car si ce n'est pas sous le compte de Dieu, si ça lui échappe, alors il n'est pas Dieu. Ce qui est toujours présent dans la Bible, surtout à partir de l'exil, précisément, et de la conquête de Cyrus, c'est la pensée iranienne, où vous avez un dieu du bien et un dieu du mal, manichéen. Alors, le dieu du bien et le dieu du mal luttent à travers l'humanité, mais on n'en connaît pas l'issue. Et contre cette tendance-là, cette tendance manichéenne, Israël a toujours réagi en disant, non, il n'y a qu'un dieu. Et si la première parole de Dieu est une parole de création, sa dernière doit être une parole de bénédiction. Donc il ne peut pas vouloir la perte des hommes. Et s'il y a une perte quelque part, c'est que les hommes l'ont voulu en connaissance de cause. Donc c'est un petit peu la théologie qui est là, en Israël, comme réflexion après l'exil. Monte en Galade, et cherchent du baume. Hein. Nous avons déjà vu que Galade, c'était l'endroit où on faisait le baume, les onguents, pour différentes contusions. Monte en Galate et cherche du baume, vierge, fille de l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte sous les traits d'une femme qui va chercher du baume pour ses blessures. En vain tu multiplies les remèdes, rien ne pourra te guérir. Les nations ont appris ta honte, le cri qu'on fait sur toi emplit la terre, car le guerrier a trébuché sur le guerrier, ils sont tombés tous les deux. C'est un poème sur Carchémiche. Et ce poème sur Carchémiche est repris ici. Alors, qu'est-ce que ce poème veut dire? Eh bien, l'Égypte a beau s'enorgueillir d'être une armée puissante et qui nivelle tout sur son passage, comme les inondations du Nil, c'est ça le Nil bouillonnant, et cependant, on se sauve et on ne trouve pas de remède aux blessures. Maintenant, un autre poème, probablement d'une autre époque, tous ne sont pas nécessairement de Jérémie, ils sont de l'époque certainement, certains sont plus tardifs. Parole que le Seigneur adressa au prophète Jérémie, quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, entreprit de frapper le pays d'Égypte. Donc, on nous amène beaucoup plus tard, en 500, on l'a vu tout à l'heure, 86, je crois, je crois que c'est ça. Parole que le Seigneur adressa au prophète Jérémie, quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, entreprit de frapper le pays d'Égypte. Publié, et alors on va citer de nouveau, les noms des villes du delta, surtout à l'est du delta, par où s'est présenté Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor est aussi passé à travers Israël, bien entendu. C'était le paillasson, hein, pour les uns comme pour les autres. Publiez-le à Migdol, annoncez-le à Nof, dites